La liturgie est très riche et je ne vais pas être trop long dans la méditation de cette passion que nous venons d'entendre. Un peu ce que je vous propose cette semaine comme piste de méditation pour rentrer dans la Semaine Sainte, c'est de faire mémoire des différents personnages qui ont croisé la vie de Jésus au moment de son calvaire. Il y a beaucoup de personnages, à commencer par celui de Judas. Quel mystère la vie de Judas. Judas, un homme qui a accompagné le Seigneur depuis les débuts, qui a vu les miracles, qui a entendu le sermon sur la montagne, les béatitudes, qui a vu Lazare sortir de son tombeau, qui a vu les foules se précipiter pour écouter la parole du Seigneur, et qui à la fin a trahi. À la fin, il a cédé. Alors, il y a plusieurs interprétations à cette trahison. Peut-être Judas avait la vision, au fond, assez juive du Messie. Vous savez que dans la tradition hébraïque, le Messie, c'est le roi, un roi temporel. C'est un Messie-roi, celui qui vient installer sur terre la plénitude de la joie, du bonheur, la santé, la prospérité pour tous. Et certains disent une interprétation, au fond, ils voulaient pousser Jésus à ce qu'il se montre comme roi et qu'il vienne avec des armées et installer le règne de Dieu, un règne temporel. C'est une interprétation. D'autres, au contraire, disent Judas, et c'est ce qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui, a eu peur. Il a eu peur parce que il voyait que Jésus prenait un autre chemin que celui qu'il pensait. Il a eu peur parce qu'il voit bien que cette consécration du pain et du vin que l'on faisait au moment de la Pâque juive, qu'on appelle le Seder de Pâques, on prend le pain, mais prenait une tournure tout à fait autre. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et donc, face à cette manière de voir la réalité, eh bien, il aurait pris peur et serait allé auprès des gardes, des responsables de ceux qui étaient en responsabilité dans le peuple d'alors. Et on sait ce qui est arrivé. Et ensuite, poussant Jésus à se montrer, mais finalement, mon royaume n'est pas de ce monde, eh bien, il a tombé dans un désespoir. Je trouve ça intéressant que nous aussi, on peut parfois trouver que la manière dont le Seigneur procède n'est pas celle à laquelle on s'attendait. Nous qui sommes ici, nous avons été témoins. Si nous sommes ici dans cette chapelle, c'est que nous avons été appelés. Nous avons été appelés si nous sommes ici. Le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous a fait signe pour cette fête des rameaux. Et c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui, dans l'attitude du Seigneur, parfois nous a interpellés, nous a dérangés, nous a fait sortir de notre zone de confort et finalement nous a fait peut-être désespérer parce qu'on priait, pour une attention tellement chère, comme on imagine les parents priant pour la guérison de leur enfant, seraient prêts à donner tout, ma vie pour la sienne. Et puis la pathologie est inexorable et la nature cruelle. Et voilà. Parfois, face à des moments comme ça, il y a des moments de grande absurdité. Fond, frères et sœurs bien-aimés, cette question de la lecture de la Passion nous pose une question. Est-ce que notre vie est absurde ou est-ce que notre vie est mystère? Est-ce que notre vie n'a pas de sens? Ou est-ce que, avec la Passion du Christ, alors que ce qui n'était absurde ou ce qui n'avait pas de sens, le mystère du mal, eh bien, ça reprend une force de vie avec sa résurrection. Nous qui sommes ici, à tâtons, restons très modestes, mais à tâtons, nous faisons le choix du mystère. Il y a le mystère, vous savez, ça vient du grec muo, c'est-à-dire quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas révélé à tous, quelque chose qui, au fond, nous appelle à aller plus loin. Oui, il y a quelque chose de mystérieux aussi dans cette trahison de Judas, dans quelque chose alors qu'il a reçu tant et tant du Seigneur. Mais vous pourriez méditer sur un autre personnage sur lequel on s'arrête assez peu, Barabbas. Vous savez ce que veut dire Bar-Abbas? Bar-Abba, c'est le fils du père. Abba, c'est père. Bar, fils. Bartimée, vous vous rappelez, l'aveugle Bartimée. Voilà, Bar, c'est fils, Abba, père. Le premier à être sauvé, c'est le fils du père. Ça interpelle. Celui qui est fils du père par excellence, le Christ, sauve par sa passion, par son offrande, comme un échange, Barabbas, le fils du père. Il vient sauver en nous le fils du père, alors que peut-être nous avons fait le mal. Alors que nous aussi, nous sommes redevables de sa miséricorde. Je trouve que c'est un peu très beau de méditer là-dessus, de dire, tiens, comment Barabbas a pu accueillir cette nouvelle? Certainement, il a vu qu'il échappait à la mort probable, voilà, donc il s'est juste réjoui, mais il n'a pas pris la profondeur du geste que posait le Christ. Ça fait, celui qui est fils du Père en nous a besoin aussi d'être sauvé, parce qu'il s'éloigne. On a lu la parabole du fils prodigue, hein, on le connaît bien dans Saint-Luc. Et puis vous avez d'autres personnages, il y a plein de personnages, Pilate par exemple, Pilate. Voilà un personnage étonnant. Voilà un personnage, c'est le prêteur romain, c'est celui qui a le pouvoir temporel, celui qui est le représentant de l'occupant romain. Un homme dont on disait qu'il était assez dur, assez cruel aussi. Et Pilate, on le voit plutôt dans l'évangile de Saint Jean, pose la question, voilà, qu'est-ce que la vérité? Voilà, Jésus l'interpelle sur la vérité, veut l'amener sur son terrain, le terrain de la philosophie. Vous savez bien que les Romains, comme dignes successeurs des Grecs, sont très attentifs à la philosophie et à la question de la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Et on voit bien que Pilate est désarçonné et par la personne du Christ, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il l'envoie chez Hérode, qui est représentant aussi du pouvoir local, pour le coup, qui est un juif qui était heureux de voir Jésus pour le faire voir, qu'il fasse des miracles. Voilà, comme un montreur d'ours. Et on voit Pilate qui, face à la... Il ne veut pas d'ennui, lui veut la Pax Romana. La Pax Romana, c'est-à-dire il veut la paix. Il veut la paix sociale. Voilà, on voit des gens en furie demandant la crucifixion de cet homme. Il n'a rien fait de mal. Sa conscience cède face à la puissance de la populace. Sa conscience cède. Et je trouve ça intéressant aussi que nous nous interrogions. Est-ce que dans... si beaucoup crient contre le Seigneur, contre les disciples du Seigneur, etc., où est-ce que nous allons mettre le curseur pour être en vérité face à la parole du Seigneur? Est-ce que nous allons céder? Est-ce que, au contraire, nous allons marcher avec lui vers sa passion? Et puis vous avez un autre personnage qui est aussi très attachant, celui qui porte la croix, Simon de Cyrène, celui qui porte Jésus à porter la croix. Voilà, qu'un homme qui passait par là, juste passait par là, tiens, aide-le, on voit bien que, parce qu'on vous rappelait, hein, porter la croix, c'est pas comme les représentations qu'on peut voir dans des tableaux ou des vitraux, c'est qu'on porte le patibulum, c'est-à-dire c'est une poutre, et ensuite, il y avait un pilier, des piliers qui étaient en permanence installés sur le Golgotha, et on clipait, pour ainsi dire, la poutre sur les piliers, donc c'était comme c'était comme ça. Et le condamné portait la poutre très lourde après avoir été aussi largement flagellé, etc. Donc cet homme-là, Simon de Cyrène, qui est touché par le Christ certainement, qui se laisse interpeller par qui se laisse sortir de sa zone de confort, là aussi on voit bien qu'il est complètement disponible à l'appel et qui aide le Seigneur à monter vers sa passion. Je trouve que c'est très beau aussi, ça parle aussi de tous ceux qui se laissent toucher, qui ont une empathie. Vous voyez, qui ont une empathie, qui se laissent toucher par ceux qui portent leur croix et tant aujourd'hui portent leur croix, hein, leur croix dans leur corps, leur croix dans leur esprit, leur croix dans la dimension sociale, religieuse. Voilà, on voit bien que nos sociétés parfois se referment dans un individualisme. Eh bien, cette parole de Néon de Cyrène, cette attitude, qui est aussi une parole, parce qu'on sait bien qu'en hébreu, parole et acte, c'est le même mot. Bien voilà, je trouve que c'est beau de se toucher par ça et de se laisser interpeller. Nous avons aussi des appels à l'aide qui nous sont lancés. Alors on peut se poser la question, est-ce que nous aussi, comme Simon de Cyrène, on va sortir de notre zone de confort, on va se mettre à la suite du Seigneur, ou plutôt voilà, regarder ailleurs, parce que voilà, on ne peut pas être dérangé. Vous savez, péché par omission, vous savez ce que c'est, péché par omission, hein, en pensée, en parole, par action, par omission. Alors péché par omission, c'est un bien qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas voulu faire, par paresse, par égoïsme. C'est ça le péché par omission. On a vu le bien, mais on a détourné le regard. On a détourné le regard. Je ne veux pas trop long, mais je vous invite vraiment à rentrer dans la méditation de la Passion à partir des personnages. Et comment chacun, face au Christ qui est là, comment chacun interagit avec lui, interagit avec les autres. Qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça vient chercher en moi, que cette lecture de la Passion. Puissions-nous, frères et sœurs, être attentifs, rentrer dans une certaine gravité, dans une certaine attitude contemplative durant cette semaine. Ce serait bien, peut-être, nous réduisions les fréquentations des médias, des réseaux sociaux, de la télévision, etc., pour être dans la parole de Dieu, approfondir cette parole et voir comment cette parole, elle vient aussi nous bousculer. Puissions-nous, à travers cette méditation de la Passion, devenir les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.